vacances. Le voici arrivé, le moment tant attendu.
Quand faut y aller, merde.
Il y avait du soleil, alors je suis descendu.
Il y a du soleil, il y a des nanas, la
dirada. Cinérama l'été.
On va s'en fourrer jusqu'à là, la dirada.
Je vais vous tenir au courant des mesures qu'on va prendre.
On se passe de l'actualité.
À mon avis, il y aura des ouvertures.
Génial.
Je ne m'attarderai pas en vaine palabre, je serai bref et précis, je ferai feu à bout portant.
Nous dépendons énormément de la saison d'été, c'est vital.
Je m'en fous.
Cinérama l'été, trois séries pour vous contenter.
Jamais très original dans ces moments-là.
This is Cinérama.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, c'est la dernière émission de cet été et nous allons clore chacun nos séries. Moi, je vais la clore par plutôt du plaisir, c'est-à-dire que je vais parler des génériques que j'apprécie plutôt. Et vous, c'est pas forcément des films que vous appréciez, notamment toi, Guillaume.
Oui, bah en fait, c'est paradoxal parce qu'on va voir qu'il y a du à boire et à manger. C'est à propos du film d'Olivier Mégaton qui s'appelle « The Last Days of American Crime ».
Et puis toi, Manu ?
Bah, c'est un film que j'apprécie parce que j'ai quand même choisi pour ce cycle autour des cinéastes femmes qui ont réalisé des films fantastiques. Et donc, je vais clore ce chapitre avec Les Cinq Diables de Léa Misius.
Et si nous commencions par ça ?
Cinérama.
Cinérama.
Les réalisatrices françaises de films fantastiques.
Mais c'est le rêve des ménagères.
Ça doit être probablement spirituel, mais j'avoue que je n'y comprends rien du tout.
Contrairement à d'autres films de genre français sortis la même année, soit en 2022, comme Teddy, Ogre et La Nuée, Les Cinq Diables est une authentique réussite. La dimension surnaturelle ne paraît pas plaquée, artifice greffé à une certaine tendance du cinéma d'auteur contemporain. La promesse du fantastique n'engendre ni frustration, ni déception. Elle s'intègre naturellement à l'intérieur d'un récit prenant et intrigant dès son ouverture. Alors, dès les premiers plans, une ampleur inédite infuse le deuxième long métrage de la réalisatrice Léa Misius après le très prometteur Ava. La campagne française s'ouvre sur des horizons majestueux, rappelant un certain cinéma américain des années 70, alors toute proportion gardée, de Michael Cimino à Terrence Malick. Mais la beauté de la photo et des plans, ils font un peu penser. Alors ces références sont lourdes à porter, mais elles sont justifiées par l'ambition de cette odyssée intimiste. Le paysage alpin avec ses lacs, montagnes et forêts, magnifiquement mis en valeur par le travail du chef opérateur, évoque le western appuyé par la représentation du village enclavé au fond de la vallée. Léa Misius installe son histoire avec beaucoup d'aisance. On fait la connaissance de Vicky, une petite fille étrange et solitaire, rejetée par ses petits camarades qui la traitent de brosse à chiottes. Allusion raciste aux cheveux crépus de la jeune fille métisse. Alors, Vicky n'est ni Carrie, ni Charlie, mais comme dans les romans de Stephen King, elle possède un don. Elle peut sentir et reproduire les odeurs de son qu'elle collectionne dans des bocaux étiquetés. Elle a aussi extrait l'odeur de sa mère, pour qui elle voue un amour exclusif. Julia, la sœur de son père, revient après des années dans cette petite bourgade pavillonnaire, laissant planer un malaise. Son irruption soudaine bouleverse la petite famille et dérange les habitants. Inutile de chercher trop loin pour comprendre que Julia est à l'origine du désordre mental qui agite les personnages.
Moi, je te le dis parce que t'es mon ami, mais je commence à entendre des trucs. Tu les connais, les gens ici. Il y a des sujets qui les font vraiment, vraiment pas du tout rigoler, quoi. Et ça peut aller très loin.
Ça veut dire quoi? Ça peut aller très loin. C'est des menaces?
Non, c'est pas des menaces, c'est juste que voilà, tu connais les gens et ils parlent. Et voilà, qu'est-ce qu'elle fait là, ta sœur?
Écoute, ma sœur, elle est passée devant un tribunal, elle a été soignée, elle va mieux maintenant.
Mais ça, ils s'en foutent.
Et si quelqu'un a quelque chose à dire, qu'il vienne me le dire en face, ok?
Les éléments naturels, le feu, l'eau, la terre et l'air, sont inscrits dans une narration hybride où se mêlent réalisme magique, chronique sociale et études psychologiques. L'articulation manque parfois de fluidité dans une deuxième partie plus convenue où le drame familial prend le dessus, étouffe l'atmosphère onirique en s'appuyant sur les rapports entre les protagonistes et la résolution progressive de l'intrigue. Alors le film gagne en clarté, en efficacité, ce qu'il perd quand même en poésie et mystère par rapport à une première heure éblouissante. Alors cinéaste d'essence, Léa Misius, après la vue ou la perte de la vue, qui était le sujet de Ava, explore l'odorat avec une infinie subtilité lui permettant de développer un imaginaire crédible. Elle nous transporte littéralement dans un espace-temps à rebours par l'intermédiaire de Vicky qui va découvrir les secrets du village, ceux de sa famille et de sa propre existence. Si une inquiétude sourde plane sur le film, ce n'est jamais pour instaurer un malaise, explorer la noirceur des personnages. Les Cinq Diables est au contraire une œuvre lumineuse et réparatrice qui tente d'amener les âmes meurtries vers une possible réconciliation envers eux-mêmes et leur entourage. L'existence de Vicky a bouleversé l'ordre des choses, un ordre qu'elle essaie, même inconsciemment, de réparer à sa manière, de façon instinctive. Elle est à l'origine d'un quiproquo temporel qui a fait du mal. Elle porte en elle une malédiction familiale difficile à assumer.
Dage Solaire.
Oui ?
On vous attendait. On a un petit souci, c'est que nous avons retrouvé ces quatre enfants inconscients dans la cour de récréation. Et on essaie de comprendre.
C'est-à-dire mais c'est brosse à chiot.
La ferme, toi, t'as pas intérêt à la ramener là-haut.
Brosse à cul.
Mais dis donc, mais comment ça s'est pas comme
allez,
ça?
Allez, ma chatte, n'aie pas peur. Dis à la directrice, qui vous a fait ça? Hein? Vicky, est-ce que t'as voulu faire du mal à Lilou?
Non, mais ça va pas.
Non,
personne n'a rebondi sur un brosse à chiottes.
Je pose une question à ta fille.
Et bah, pas à ma fille.
Ah bon, elle ne peut pas répondre.
Non, elle ne peut pas répondre parce que je suis là depuis tout à l'heure.
Je lui pose une question. Donc, non, je voudrais juste avoir une réponse si c'était inconscient.
Et bah, moi aussi, j'essaye de comprendre.
Elle a une langue?
Mais moi aussi, j'ai une langue.
Oui, alors je lui pose une question.
Mais il y a des manières de faire, d'accord?
Mais voilà, évidemment, bien sûr. Fuis, vas-y. Elle va se retrouver devant le tribunal pour enfants, ta gosse. Chiens font pas des chats, hein?
Poufias.
Poufias!
Qu'est-ce qu'elle a dit, là?
Elle a dit poufias.
Ouais, pauvre folle!
La mise en scène brillante est en osmose avec cette étrange histoire teintée de chamanisme, voire de référence au vaudou, la précision des cadrages, l'utilisation pertinente du scope. Le film est d'ailleurs tourné en 35 mm. Les lents travelling envoûtants portent le film vers une sophistication à contre-courant du jeune cinéma d'auteur français. L'ombre des sorcières plane sur le film à travers le pouvoir de Vicky. Son isolement allié au rejet des autres enfants ramène le film du côté des mythes fantastiques. Les couleurs chaudes de la chambre de Vicky évoquent l'antre mystérieux des sorcières défiant les règles de la nature, permettant à Léa Misius d'affirmer discrètement son féminisme. L'emploi judicieux de la musique, alliant des compositions tribales pas loin d'une transe organique de Florencia di Concilio, et les morceaux pop apportent une plus-value au climat instable entre pesanteur et légèreté.
Elle m'a parlé des orientations sexuelles de Julia.
C'est quoi les orientations sexuelles de Julia? Dis-moi, monsieur le sexologue, c'est quoi? Elle est orientée par rapport à quoi, ta sœur? Par rapport au vent? Par rapport au soleil? Julia s'entend le soleil.
Calme-toi.
Oh putain. Arrête de me dire de me calmer, mais tu me fais chier! Si j'ai envie de crier, je crie! Ah!
Tu es folle.
Mais non, justement, c'est ça que tu comprends pas! Je suis normale! Normale, un humain, tu comprends? Tu devrais essayer des fois de crier, de vivre, de je sais pas moi. Même quand t'es énervé, t'es chiant. Je sais pas, peut-être que j'aurais envie de t'embrasser, d'être un peu heureuse ou de baiser avec toi.
Sur un sujet finalement proche de Last Night in Soho, dans les deux cas, il s'agit de résoudre une énigme issue du passé. Les Cinq Diables prend des allures de conte moderne, doublé d'un regard lucide et sensible sur nos contemporains, cette foule sentimentale qui a tant besoin d'amour dans une société gangrénée par le rejet et la frustration. Voilà, un beau mélodrame fantastique, et c'est peut-être le film le plus, on va dire, lumineux de tout ce que j'ai présenté cet été.
Et tu as oublié de dire que c'était avec Adèle Exarchopoulos.
Oui, c'est vrai, c'est avec Adèle Exarchopoulos.
Donc ce film, Les Cinq Diables, est évidemment disponible en VOD, DVD, Blu-ray. Allez, on termine une autre série estivale, c'est celle consacrée au générique.
Cinérama. Cinérama.
Y a-t-il quelque Cinérama. Chose que je devrais savoir?
Une petite histoire du générique.
Ça ne vous gêne pas si je prends quelques petites notes?
La dernière émission de la série, donc estivale sur le générique, j'ai décidé de la consacrer à des génériques alors, qui ont fait date, et puis il y a ceux aussi que j'apprécie personnellement, et parfois les deux se confondent. Alors commençons par Catch Me If You Can, car si le film est américain, signé Spielberg évidemment, le singulier générique est signé des Français Kunzel et Degas. Comme tout générique, il est évidemment très visuel, même s'il est accompagné d'une musique de John Williams qui facilite son absorption. Le générique dure 2 minutes 30 et c'est un film d'animation en soi. Le duo français nous place dans l'histoire avec deux personnages dessinés en quelques traits, l'un Tom Hanks, courant après l'autre Leonardo DiCaprio. Toutes les mentions sont la continuité de lignes verticales avec les lettres qui s'allongent jusqu'à aller hors cadre. Un coup, le personnage poursuivi prend les traits d'un commandant de bord, une autre fois celui d'un médecin, change de tenue pour aller à une soirée. Les espaces se séparent et les univers se multiplient, le noir et le blanc contrastent avec la couleur des fonds. La fin du générique est plus onirique, mais les traits restent les mêmes, simples et efficaces. Ce générique est une entrée en matière séparée de la matière filmique, c'est une animation qui traite d'un film. Pour Fight Club de David Fincher, l'ambiance est bien différente. Sur une musique des Dust Brothers, on suit un signal électrique qui va jusqu'au cerveau du personnage incarné par Edward Norton, qui a un flingue pointé sur lui par le Tyler Durden. Je vais citer David Fincher. Le film aurait pu commencer par ce bruit fait par le chien du pistolet avant d'enchaîner sur Edward Norton, mais j'ai eu cette idée de commencer par ces impulsions électriques entre deux synapses pour montrer les signaux de panique et de peur s'emparant du cerveau du personnage d'Edward. La séquence bourrée d'effets spéciaux est un peu chère à l'époque, hein, elle a coûté dans les 800 000 $, mais l'avantage de ce début, c'est qu'il donne le ton du film.
Les gens me demandent tout le temps si je connais Tyler Durden.
3 minutes. On y est. Le point zéro. Tu veux dire quelques mots pour marquer le coup ?
Ouais. Avec le canon d'un flingue entre les dents, on ne prononce que des voyelles. Là, il n'y a rien qui me vient.
Restons sur un trajet à suivre avec le générique de Lord of War d'Andrew Niccol. Le générique débute vers un travelling avant qui survole des milliers de balles jonchant le sol et nous amène jusqu'au personnage interprété par Nicolas Cage qui dit ceci.
Il y a au-delà de 550 millions d'armes à feu dans le monde qui sont en circulation. Ce qui fait une arme pour chaque 12 habitants de la planète. La seule question est... Comment est-ce qu'on arme les 11 autres ?
Alors sur cette musique légère, nous voilà emmenés dans une usine qui fabrique les balles. Nous suivons ensuite le trajet d'une de ces balles qui va jusqu'en Afrique. Elle est armée dans un fusil mitrailleur et va se loger dans la tête d'un jeune homme. Ce générique aborde la question du film, hein, soit la responsabilité de celui qui fournit les armes, le vendeur n'ayant aucune morale. Battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds. Are getting so much resistance from behind. Every time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street. J'aimerais aussi parler d'un générique de Wes Anderson, un formaliste aussi brillant, élabore forcément des génériques à la hauteur de son talent. Celui de Moonrise Kingdom est une séquence d'ouverture tout en travelling dans une maison qui se peuple petit à petit d'enfants d'une même fratrie qui écoute une musique de Purcell avec un manche-disque. L'aîné se poste à la fenêtre, prend des jumelles, écarte les rideaux. La musique qui était diégétique ne l'est plus. Nous voyons le personnage depuis l'extérieur et dans un travelling arrière, nous voyons que cette grande maison est sur une île. De retour dans la maison, d'autres séquences suivent, permettant de faire connaissance avec de nouveaux personnages et plaçant ceux qu'on connaît déjà dans d'autres situations, avec toujours l'aîné qui nous observe avec ses jumelles. Impossible de parler générique sans parler de Gaspard Noé. Une émission devrait lui être consacrée, car voilà un réalisateur qui apporte un soin particulier à comment on entre dans ses films, comment on en sort et comment on peut même en sortir avant la fin. C'est une référence à Seul contre tous, hein, quand le réalisateur met en garde le spectateur avec un carton contre une scène violente qui va arriver, lui signifiant qu'il a 30 secondes pour quitter la salle et beau joueur, le réalisateur place un compteur. On peut parler d'Irréversible qui commence avec le générique de fin à l'envers, évidemment, avec les mots à l'envers, ce qui ne simplifie rien avant qu'une musique inquiétante ne vienne accompagner une caméra tournoyante et que le nom des acteurs apparaisse enfin, mais toujours à l'envers, accompagné par un gimmick sonore. « Ça continue comme ça pendant une bonne minute jusqu'au nom du réalisateur avant que le film ne débute enfin. Ce gimmick sonore accompagnant des mots était déjà utilisé dans Seul contre tous.
Tu sais ce que c'est que la morale ? Moi je vais te dire ce que c'est la morale. La morale, c'est fait pour ceux qui la tiennent. Les riches. Et tu sais qui a raison chaque fois ? C'est les riches. Et c'est les pauvres qui trinquent.
Pour Enter the Void, Gaspard Noé fait très fort. Il placarde les mentions en lettres blanches et oranges sur fond noir avec une musique saturée allant jusqu'aux détails, si bien que cette musique dure une bonne minute avant le silence qui annonce une tempête de logos et de noms avec une toute autre musique. Le rythme est frénétique, l'impression rétinienne est fragile, d'autant plus que le rythme s'accélère et certains n'en sortent pas indemnes, hein, alors que le film n'a toujours pas commencé. Mais s'il y a un générique qui compte pour moi, c'est celui de Lost Highway. Non seulement parce que je considère ce film comme un chef-d'œuvre, mais son ouverture et sa fermeture m'ont donné envie d'aller le revoir deux fois en salle, juste pour revivre la même impression au début et à la fin. Alors, il est simple, hein, c'est d'abord une ambiance de nuit d'une voiture qui roule et dont les phares éclairent les lignes jaunes discontinues de la route avant que la musique de David Bowie intervienne avec une typo jaune raccord avec la route. Ce générique dure 2 minutes 50. Et de Blue Velvet à Mulholland Drive en passant par Twin Peaks, les génériques de David Lynch sont absolument précieux. Restons avec David Bowie.
Funny how secrets travel on. I start to believe. If I were to bleed, in sky the man chains his hands held high, but cruise me, Lord, cruise me, babe. A plan beneath, beyond, 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 no return, no return. Down, down, down.
Ainsi s'achève cette série sur les génériques de films. Il y aurait beaucoup à dire, on pourrait faire une année entière là-dessus. Ce serait dur de faire une année entière sur les films qui évoquent l'année 2024. C'est pour ça que nous n'en faisons qu'une saison estivale. C'est pour toi ton dernier film, Guillaume.
Cinérama.
Attention, Cinérama. Tout le monde Cinérama. À l'écoute, attention.
Comment certains films ont vu 2024.
Disons que c'est de la prémonition.
Prémonition.
Oui, dernier jour, parce que justement, c'est les derniers jours du crime américain, The Last Days of American Crime, dont on va parler. Alors derrière ce titre intrigant et forcément séduisant, hein, se cache d'abord un roman graphique du même nom, paru en 2009 et assez culte à la base, hein, dû au scénariste Rick Remender, connu pour avoir écrit plusieurs comics Marvel, comme Captain America, Venom ou The Punisher. Alors autant le dire, il y a ici un changement de ton assez important. Non pas que pas mal d'aventures de Venom, mais surtout du Punisher, soient pour tous les publics, hein, mais ici, on vise clairement la dans ce qu'il a de plus controversé. Alors voyez par vous-même, nous sommes donc dans un futur proche 2024, hein, vu à la hauteur de 2009, et le gouvernement américain prépare son ultime réponse au crime, c'est-à-dire l'utilisation d'un signal rendant impossible pour chacun de commettre le moindre acte illégal. Alors pour détourner l'attention du peuple américain, le gouvernement met en place un nouveau système de cartes monétaires digitales rechargeables via des stations spécialisées. Graham Brick, un criminel professionnel, prépare un plan pour dévaliser l'une de ces stations avant de quitter le pays et en rejoindre un autre, hein, qui laisse le libre arbitre moral à ses citoyens. Mais il apprend ce que prépare le gouvernement et il ne lui reste plus qu'une seule semaine pour commettre son délit avant que le signal anticriminalité ne soit mis en place. Alors dit comme ça, les choses ont l'air plutôt simples, mais il va falloir composer avec une informaticienne peu avare de ses charmes et un fils gangster complètement frappé du bulbe, hein, qui va profiter de cet ultime casse américain pour régler son complexe oedipien.
L'Amérique. Il ne reste plus qu'une semaine pour faire ses propres choix. Une semaine avant que le gouvernement n'entre dans vos têtes et prenne les commandes. Face à ça, la plupart des gens baissent les bras et capitulent. Les autres vont tenter tout ce qu'ils peuvent pour réussir à fuir cette ville de merde. La liberté est si proche, juste de l'autre côté du pont. Le Canada. Mais la plupart des gens mourront avant d'avoir vu le drapeau rouge et blanc.
Alors sur papier, The Last Day of American Crime est aussi séduisant que son titre. Le problème, c'est que son exécution en images a été supervisée par Netflix, dont l'habituel carnet de route à tenir, hein, et les aspérités visuelles vont régulièrement tirer vers le bas, hein, ce beau potentiel. Mais ne fuyez pas tout de suite, hein, car vous risquez, comme moi, d'y trouver malgré tout un petit peu votre compte. Alors il faut le dire, hein, même si nous sommes très loin du chef-d'œuvre, hein, et que nous allons détailler ses défauts, The Last Days of American Crime a, malgré le problème de chiffrer à pas moins de 2h30, a régulièrement des petits sursauts qui permettent de tenir jusqu'au bout. Comble d'un projet venant à la base d'un scénariste pointilleux, celui du film est clairement lacunaire. Le protagoniste principal, une sorte de Snake Plissken en civil qui veut venger son frère joué par le pourtant très capable Edgar Ramirez, n'est pas particulièrement bien développé et a du mal à véritablement exister à l'écran au point d'être le véritable passeport idéal vers cette Amérique complètement folle. Ce serait une chose s'il était décrit comme étant sympathique ou plutôt comme un anti-héros, mais on ne nous donne pas assez à manger pour le rendre convaincant. Il est juste un peu plat, contrairement à celui qui donne tout à l'écran, Michael Pitt, qui joue le rôle du fameux fils du gangster et qui en fait tellement des tonnes qu'il en vient à voler toutes les scènes dans lesquelles il apparaît. Alors, suivant votre tolérance, il apparaîtra comme salvateur ou totalement irritant, mais il ne laissera jamais indifférent. La scène de la confrontation avec son père, que je vous laisse découvrir, est clairement la plus drôle, la plus violente, la plus inattendue et la plus amusante du film.
Tu m'as tendu un piège, connard! T'as essayé de me descendre, fils de pute! Tu peux me dire qui, à part un détraqué comme toi, va avoir l'idée de baiser sa belle-mère?
C'est moi qui t'ai présenté!
Je t'ai donné la terre entière!
Tu m'as donné que dalle, connard!
Sors d'ici,
va,
connard!
Tu m'as jamais rien donné! C'est elle qui a eu droit à tout!
Oh, mais grandis un peu, Kevin!
Et toi, tu veux pas la fermer, espèce de débile!
Oh, pauvre, c'est
allez, Connie, retourne à ta réception! Retourne à ta réception!
Tu veux que je te donne mes saucisses, hein?
Espèce de connard!
T'arrêtes pas de te plaindre, tu s'en vas jamais, sale connard!
Derrière la mise en scène, il y a le Frenchie, Olivier Mégaton, le triste sire derrière la Sirène Rouge, Tekken 2, 3, le Transporteur 3 ou encore Colombiana. Aïe. Donc heureusement, ce qui semble être les références rattrape un petit peu sa caméra secouée, car on songe régulièrement à la ville folle de Southland Tales, le chef-d'œuvre maudit de Richard Kelly et le mythique et lui visionnaire Strange Days de Catherine Bigelow, co-scénarisé et produit par rien de moins que le roi du monde James Cameron. Alors on y retrouve cette Amérique désespérée, ici rongée par ses maux, point de créer ce bloqueur neuronal de mauvais actes, point de départ d'un univers extrêmement intéressant. C'est un véritable pamphlet hein, des différentes facettes hein, qui font l'homme américain, dont cette envie de justice, mais à la carte. Comme toujours, on souhaite rendre le monde moins violent, faire en sorte de faire baisser la criminalité, mais tous ne peuvent pas être concernés. Les forces de l'ordre sont par exemple épargnées hein, et ne sont pas touchées par ce système révolutionnaire, leur laissant l'entière possibilité d'entreprendre n'importe quel acte immoral. Mais cette sous-intrigue passionnante et représentée par le toujours excellent Charlton Copley à l'écran est littéralement sacrifiée en cours de route.
Ma secrétaire m'a informé que vous aviez créé beaucoup de problèmes dans cette ville, sans jamais être arrêté. Le rachat fédéral se concentre sur les criminels en col blanc, banquiers, gestionnaires de fonds spéculatifs qui ont caché de grosses sommes qui, si elles ne sont pas rapatriées maintenant, seront tout simplement mises hors de circulation une fois que le signal sera actif. Ce qui n'est bon pour personne. Il ne s'agit pas de voleurs d'orange.
5 millions en cash.
5 millions de dollars en cash. Et comment les apporterez-vous ?
Je peux remplir mon coffre de coupures de sang.
Dans le cadre du programme de l'API, je ne peux vous donner que... 350 000 dollars. Mais vous vous y prenez un peu tard. Le signal sera activé dans un peu plus de 24 heures, après quoi, comme vous le savez, votre argent ne vous servira plus à rien. Ce sera le meilleur deal de toute votre vie.
Le film se perd parfois hein, entre films de braquage, films d'action, drame familial, films d'anticipation, satire sociale, au point que rien n'est vraiment développé à fond hein, et les arcs de narration très vite abordés sont jetés au bord de la route. On sent que les scénaristes ont eu du mal à résumer les trois volumes hein, du roman graphique original hein, et ce qu'on regrette le plus, bah, c'est de ne pas être allé au fin fond de cette société qui vit un point de bascule littéralement amené par un... littéralement mené par un compte à rebours hein, marquant l'introduction de la fin du crime. On aurait pu avoir un aspect paranoïaque à la Philip K. Dick plus développé, hein, à la Minority Report ou encore Substance Zero, et exploiter plus cette fête qui ressemble au 31 décembre de Strange Days hein, qui a tout d'une fin du monde. On se console en se disant qu'en 2024, Netflix n'a pas encore totalement détruit les bons divertissements et qu'il n'a pas encore été arrêté par des brigades hein, de cinéphiles qui auraient envie que les crimes qu'il commet parfois contre le cinéma le ramènent à la peine capitale.
Oui, puis une fois n'est pas coutume, Olivier Mégaton n'a pas réalisé tout à fait une mégabouze.
Comme quoi tout arrive hein, en 2024.
Et puis si on peut dire quelque chose de bien sur Netflix, il faut savoir qu'ils ont donné de l'argent pour que le grand film d'Abel Gance, Napoléon, soit restauré parce qu'il manquait beaucoup d'argent au budget hein, pour finaliser ce projet de restauration.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Ça s'impose.
Mais pour quelle raison ?
Qu'est-ce que vous racontez ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Je ne connais pas la réponse moi-même. Comme vous êtes bizarre.
Oui.
C'est difficile de répondre.
C'est une plaisanterie !
Ainsi s'achève bien cette longue série d'émissions estivales. C'est fini l'été, donc bientôt la rentrée. On va retrouver le rythme habituel de Cinérama, c'est-à-dire qu'on va parler bien des films qui sortent en salle. L'actualité. À bientôt.